Session sur le regard du philosophe sur la paternité de Dieu par le Père Marie-Dominique Philippe, première conférence, le 5 juillet 2001 à Saint-Judas.
Hier, nous avons essayé d'entrevoir cette paternité de Dieu comme créateur et la transformation ou l'achèvement. Vous voyez, quand on se place du côté de la finalité, la grâce chrétienne apparaît vraiment comme celle qui achève, qui permet à notre nature humaine un développement suprême. Sans la grâce, tout reste un peu inachevé, en attente. Et quand on se place d'un point de vue plus formel, on voit l'abîme entre la nature et la surnature. Vous savez, c'est une question théologique qui a fait couler beaucoup d'encre, la question des rapports de la nature et de la surnature. Et je crois qu'on devrait regarder aussi comment Dieu achève une personne humaine. Alors on prend la finalité. Devant Nicodème, Jésus parle d'une naissance nouvelle, naître de l'eau et de l'esprit. Et le pauvre Nicodème est complètement dépassé. Alors il fait un peu d'ironie. Comment, quand on est vieux, peut-on retourner une seconde fois dans le ventre maternel? Nicodème sait très bien que c'est impossible. Il n'est pas bête, Nicodème, docteur de la loi. Un homme influent. Alors, il ironise. Naître de nouveau. Comment naître de nouveau? Et Jésus montre la différence de la naissance selon la chair et le sang, et puis cette naissance divine. Donc c'est du côté de la finalité, naître. Une mère met au monde un enfant qui est une personne. On baptise un petit être qui est une future personne et qui est déjà une personne. Et du côté de la finalité, il y a comme un appel. Saint Thomas dira, il y a un désir naturel de Dieu, de voir Dieu, de connaître Dieu. Ce désir naturel de connaître Dieu, c'est le désir naturel du Fils, de la fille de Dieu, de la petite fille de Dieu qui désire connaître son Père. Et c'est le désir naturel du Fils qui veut connaître son Père. Alors c'est sûr, ce désir naturel ne peut pas se réaliser au point de vue surnaturel en dehors de la grâce. Mais la paternité est un moyen merveilleux, du moins un moyen, une réalité merveilleuse pour voir comment l'ordre chrétien, loin de s'opposer à l'ordre humain, au contraire l'achève, le prolonge. Dieu en en créant des êtres spirituels, en créant l'âme, puisque philosophiquement, nous ne parlons pas des anges, Dieu, en créant l'âme, doit la conduire à sa fin. Et c'est ce que nous appelons le gouvernement divin. Il y a une chose très importante à bien regarder. On ne gouverne que des êtres spirituels. On éduque que des êtres spirituels. Quand dans les cirques classiques, on éduque des éléphants à jouer au piano, on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Quand dans les cirques, à Fribourg, on avait toujours un cirque merveilleux chaque année, le cirque Kni, avec un clown merveilleux. Et une année, ce clown avait montré comment on peut capter la lumière. Alors il essayait comment on capte un papillon avec un... pour le mettre dans le sac et le prendre. Aller chercher à prendre la lumière. C'est impossible. Vous ne pouvez pas prendre la lumière. La lumière, ça ne se prend pas. Ça se donne. Et ça se donne gratuitement. Sauf l'électricité. Autrement, ça se donne gratuitement. Et ça se donne pleinement. On éduque un petit enfant. On le gouverne. Un gouvernement, c'est l'éducation. Et Dieu fait ça en premier. Dieu, quand il crée des êtres spirituels, il les éduque. Comme père. Et le gouvernement de Dieu, comme père, gouverne en nous ce qui est capable d'être éduqué. Qu'est-ce qui est capable d'être éduqué? C'est notre intelligence et notre cœur. Nous sommes toujours éducables. Quand on est arrivé à un âge où on ne peut plus supporter l'éducation du père et de la mère, on ne peut plus supporter l'éducation d'un pion, d'un gendarme. Parce qu'un gendarme éduque aussi. Il oublie souvent d'éduquer. Au fond, il devrait éduquer. Parce que s'il peut mettre des amendes, les amendes, ça a une signification, la finalité. Demandez à un gendarme la finalité des amendes. La prochaine fois qu'il vous donnera une amende. Monsieur le gendarme, je voudrais savoir la finalité de cela. Pourquoi vous donnez une amende? C'est parce qu'il veut vous éduquer. Vous apprendre à ne pas aller trop vite. Il y a des endroits dangereux. Or, la plupart, disons, il consiste à donner l'amende. Sa finalité pour lui, c'est ça. Alors, c'est pas une finalité. Comme finalité pour un être humain, donner des amendes, c'est pas très drôle, hein. Tandis que si on éduque, c'est différent. Mais je connais quelqu'un comme ça qui a répondu au gendarme. Le gendarme lui dit qu'il avait brûlé un feu rouge. Et alors il a simplement répondu au gendarme, monsieur le gendarme, si vous avez été à ma place, vous auriez fait comme moi. La dame n'a pas su quoi lui répondre. Allez, peut-être, mais maintenant je suis dans une autre situation. Je vous vois faisant une faute. Dieu ne punit jamais pour punir. C'est trop bête. Punir pour punir, c'est sadique. C'est mauvais. Dieu punit pour une fin. Éduquer un être, c'est éduquer son intelligence. Quelle est la première éducation de Dieu sur nous ? Le premier gouvernement de Dieu sur nous, en tant que sommes des êtres spirituels, c'est d'éveiller notre intelligence à chercher la vérité. Et c'est très beau de voir cela. Tant que nous ne cherchons pas la vérité, nous ne sommes pas éducables. Quant à l'intelligence. Et si l'intelligence n'est plus éducable, le cœur n'est plus éducable, il n'y a plus d'éducation aujourd'hui. Alors il faut la reprendre à la racine. Quel est le premier éducateur ? C'est Dieu dans son gouvernement. C'est Dieu comme Père qui gouverne l'homme. Quelle est la première coopération avec Dieu ? On ne s'en aperçoit pas. Mais la première coopération avec Dieu, c'est la recherche de la vérité. Notre intelligence est faite pour la vérité. La vérité est le bien de l'intelligence. Mon intelligence s'engraisse. Vous savez, il est toujours dit dans l'Écriture que Dieu aime bien l'odeur des graisses qui fondent dans les victimes. C'est dit dans l'Écriture, ça. C'est un réalisme extraordinaire. Dieu aime l'odeur de la graisse qui fond. Alors je me suis toujours posé, quelle est la graisse fondue par la charité, par l'amour ? C'est la graisse de l'intelligence. D'avoir une intelligence bien faite. Être un athlète de l'intelligence. Dieu aime ça. C'est important de savoir ça. Que vous faites la joie de Dieu en recherchant la vérité. Et c'est la joie la plus fondamentale que Dieu réclame d'être spirituel. Ce n'est pas un caprice de juger la vérité. C'est la réponse immédiate au gouvernement de Dieu sur nous. C'est la réponse la plus fondamentale sur le gouvernement de Dieu sur nous. De chercher la vérité. Et en cherchant la vérité, en découvrant la vérité, notre intelligence s'engraisse. Elle devient plus forte. Elle devient plus agile. Elle devient plus souple. Le raidissement dans l'intelligence, c'est parce qu'on a peur. Alors on se raidit. Quand on n'a pas peur, on est souple. Dans les mains de Dieu, notre intelligence est très souple. Parce qu'elle n'a plus peur. Et avec celui qui est notre Père. Dieu éduque, gouverne en premier lieu notre intelligence. Et si Dieu se trouve devant une intelligence qui ne cherche plus la vérité, Dieu nous laisse. Tu ne nous forces jamais. Il éduque que ceux qui désirent l'être, quelquefois, au plan surnaturel, Dieu agit avec violence. La conversion de Saint Paul, de Saul de Tarse. Dieu agit avec violence. Mais au point de vue naturel, Dieu fait lever son soleil pour les bons et les méchants. Dieu fait lever son soleil sur tous les partis politiques. Ah, c'est la bonté de Dieu. Et demande à ceux qui ont une intelligence éveillée de reconnaître ça. Dieu veut notre bien et nous éduque quant à notre intelligence pour que nous recherchions le premier bien pour nous, le bien le plus fondamental, le bien le plus fondamental, c'est celui de l'intelligence, la vérité, la recherche de la vérité. Ça, vous pouvez le découvrir, que le premier acte de Dieu comme Père de ma vie, de ma personnalité, c'est qu'il veut être Père de mon intelligence, en m'habituant à coopérer avec lui. Je ne m'en aperçois pas, parce qu'il est extrêmement doux, extrêmement bon. Je ne m'aperçois pas. Mais toute recherche de la vérité, je coopère avec Dieu, qui est le Père de mon intelligence, et qui veut cette coopération. Si Dieu éveille mon intelligence vers la vérité, vous voyez, c'est extrêmement beau de saisir que le premier moment du gouvernement divin naturel sur moi, c'est d'éveiller mon intelligence à la recherche de la vérité. Et de faire que là, je coopère avec lui. C'est très beau, c'est très grand, ça. Parce que ça fait comprendre notre noblesse. Dieu ne coopère pas avec le lézard, avec un animal. Le petit cochon. Non. La première du gouvernement divin, Dieu recherche, il crée des êtres intelligents. Et il veut que ces êtres intelligents progressent comme êtres intelligents. Or, très souvent, on n'y pense pas du tout. Que progresser dans son intelligence en recherchant la vérité, c'est cela qui est le plus agréable à notre Père. Vous savez, pour un Père, c'est pas très drôle d'avoir un fils qui est un cancre. C'est jamais drôle pour un Père d'avoir un fils. Un Père qui a fait polytechnique, qui est très astucieux, d'avoir un fils qui ne veut pas travailler, qui est cancre. Il dit, je suis bien comme ça, je suis bien d'être comme un âne, je mange, je bois, je dors. Je ne fais que ça. C'est la seule chose qui m'est comme naturelle. Vous croyez que ça grave pour un père? Ah non, c'est ce qui est le plus pénible. Et pour Dieu, qui a créé des êtres intelligents, et de voir que ces êtres n'ont aucun souci de ce que Dieu leur a donné, l'intelligence. De sorte que c'est une joie fondamentale qu'on procure à Dieu. Cette joie fondamentale de voir des êtres humains, faibles, fragiles, au milieu des erreurs qui se propagent avec une force, une intensité. De voir de pauvres êtres fragiles qui cherchent la vérité. Personnellement, c'est ce qui me réconforte le plus. Que en cherchant la vérité, je fais plaisir à Dieu. À mon père. Je lui offre un petit bouquet. Le bouquet du mois de mai, vous savez. Les premières fleurs. On lui offre ça. Et chaque fois qu'on découvre la vérité, mieux, on lui offre. On coopère avec Dieu. C'est grand. C'est très grand, ça. Et on comprend que Dieu, en créant notre âme, nous a donné cette chose si prodigieuse, l'intelligence. Et qu'il veut lui-même l'école maternelle de Dieu, permettre à notre intelligence de se développer. Faisant de la métaphysique, je plais à Dieu dans son gouvernement de père sur mon intelligence, puisque cette métaphysique me permettra de découvrir l'existence même de mon père. Dieu éduque en second lieu ma volonté. Éduquer ma volonté, c'est éduquer l'amour. Dieu a créé en moi, dans mon âme spirituelle, une capacité d'aimer. Le premier amour. Vous voyez, comme la mère. Ah, ça tient, c'est maternel. On passe du père à la mère, spontanément, hein, comme la mère est attentive au premier sourire de son petit enfant. Pourquoi ? Parce que le sourire est la première manifestation de son amour. De l'amour de l'enfant. Un éveil. De l'amour, l'éveil de l'intelligence, la recherche de la vérité. Vous voyez, c'est beaucoup plus sérieux. Hein. Tandis que le sourire de l'enfant, ce sont les Grecs qui ont compris ce que c'était que sourire au point de vue de l'art. La fleur qui s'ouvre au soleil, elle s'ouvre. La nuit, elle s'est refermée. Et quand la mère sourit, l'enfant répond. Il faut que la mère lui apprenne à sourire. Elle est heureuse. Oui. C'est la première manifestation d'une intelligence au service de l'amour. C'est très grand le sourire. C'est très beau. Je connais un moine orthodoxe qui a fait une thèse de théologie sur le sourire du Christ. C'est beau, ça. Dans notre monde d'aujourd'hui, faire une thèse de théologie sur le sourire du Christ. Le premier sourire du Christ pour Marie et le dernier sourire du Christ pour Marie. Au XIVe siècle, des artistes chrétiens aimaient de nous montrer le sourire du Christ sur la croix. C'était pour Marie. Le premier et le dernier. Et le dernier sourire d'un homme, d'un père qui meurt. Et il sourit à son fils qui est près de lui. C'est étonnant le sourire, vous voyez. Les animaux ne sourient pas. Vous savez, j'ai remarqué ça en Afrique. Quand je voyais des singes assez volumineux, donc assez terrifiants, le petit singe est amusant, mais le gros singe, qui pèse 100 kilos, pas commode, hein. Quand il voit qu'on rit, ils deviennent furieux, méchants. Parce qu'on fait quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Vous n'avez jamais vu un singe sourire, hein? Et il y a un petit singe que vous éduquez. Faites-lui des petits sourires du matin jusqu'au soir. Il n'en faut jamais. Il vous donnera un coup de patte. Ne cherche pas ça. La distinction entre l'animal et l'homme, c'est pas la parole, c'est le sourire. On arrivera à faire que des singes prononcent des voix extraordinaires, des perroquets, arrivent à vous dire des choses étonnantes. Toutes les grossièretés possibles, il apprend ça, et puis il les dit devant les personnages les plus éminents, avec un sang-froid absolu, parce qu'il ne comprend rien. Mais il répète. Alors il a un sang-froid. La première éducation de l'amour, c'est le sourire. Et c'est le Père qui nous apprend à aimer. Descartes dit que la première activité de la volonté, c'est l'efficacité. C'est faux. La première activité de la volonté, c'est l'amour et c'est le sourire. Aimer. Notre volonté est faite pour aimer. Et c'est à partir de l'amour qu'on devient efficace. Cette première éducation de Dieu sur nous est très importante. Elle est paternelle et maternelle. Et Dieu se sert des hommes. Il se sert de la mère. Il se sert du père. Mais il y en a tellement peu, comme mère et comme père, qui pensent, qui sont là, comme des témoins de Dieu pour la première éducation de l'intelligence et de l'amour. Au fond, le gouvernement de Dieu est premièrement paternel. Parce que Dieu a créé le monde entier pour l'homme. Pour l'ange, il n'a pas créé de monde. Je peux dire ça au point de vue théologique. Mais pour l'homme, on l'oublie trop ça. Pour l'homme, Dieu a créé un milieu. Parce que l'homme a commencé par la petitesse de l'enfant, de l'embryon. C'est Dieu qui a voulu ça. Dieu a voulu que tous, que chacun d'entre nous, dans nos vieux souvenirs, dans nos souvenirs très cachés, on a été un petit embryon. Et grâce à l'amour de notre mère, nous sommes ici. Et c'est grâce à l'amour de notre mère et de notre père que nous sommes ici, vivants, intelligents. Tu as fait une confiance inouïe dans l'homme, une confiance inouïe dans la femme. Être la gardienne de son trésor, être la gardienne du tout petit enfant. C'est extraordinaire, ça. Et il veut que la mère reçoive la première, le sourire de l'enfant. Et que le père reçoive le premier, l'intelligence de son petit qui grandit, qui apprend, apprend d'une langue. C'est l'intelligence qui s'éveille. La première coopération de Dieu avec Dieu, c'est pour la recherche de la vérité et l'éveil, l'approfondissement de l'amour jusqu'à l'amitié. Et à partir de l'amitié, jusqu'à l'adoration. Et à partir de l'adoration, jusqu'à la contemplation. Mon intelligence est faite pour contempler Dieu. Et tant qu'elle ne contemple pas Dieu, elle est en retard. Elle est dans le désir. Il faut que ce désir s'actue. C'est très grand de voir que l'homme est fait par sa nature, par son intelligence et sa volonté, est fait pour coopérer avec Dieu dans le gouvernement divin. Et ce gouvernement divin est paternel et maternel auprès du tout petit. Et quand nous grandissons, ce gouvernement de Dieu devient de plus en plus impératif pour cette recherche de la vérité. Parce que Dieu a créé l'homme, pour lui. La finalité de notre vie personnelle, c'est notre finalité, c'est pour nous. Et Dieu respecte ça, puisque c'est Dieu qui l'a créé. Nous ne sommes pas faits pour un autre, nous ne sommes faits que pour Dieu. Parce que être fait pour Dieu, ça ne fait pas nombre avec notre propre finalité. Il n'y a que Dieu choisi comme fin qui peut réaliser en nous notre finalité, notre épanouissement total. L'ami le plus clairvoyant, le plus merveilleux ne peut pas faire ça. Il doit au contraire être là pour permettre le dépassement. Je ne quitte pas mon ami quand j'aime Dieu, mais je le dépasse. Et lui doit consentir à ce dépassement. Je ne peux pas dépasser Dieu. Dieu, c'est le terme, la fin. Alors, essayons de comprendre, pour toujours mieux comprendre cet acte paternel de Dieu qui nous gouverne, qui gouverne notre esprit, qui gouverne notre âme, qui gouverne notre cœur. Comment Dieu gouverne-t-il notre univers ? Cet univers que Dieu a créé pour nous. La première chose sur laquelle j'insiste, c'est que cet univers dans lequel je suis, et dans cet univers, les étoiles sont comprises, le soleil est compris, toute la voie lactée est impliquée, tout le monde de la lumière et des ténèbres. Tout cela est pour l'homme, qu'il y ait un jour, qu'il y ait une nuit, c'est pour l'homme. Dieu a voulu qu'il y ait un jour la lumière du jour, qu'il y ait l'obscurité de la nuit. Dieu n'en a pas besoin, hein. Pour Dieu il n'y a pas de nuit, pour Dieu il n'y a pas de jour, il est. C'est pour ça que dans les traditions religieuses, le soleil, c'est Dieu. Et on voit encore ça. Je me souviens, quand on s'est installé ici, quelqu'un que je connaissais, qui n'était pas croyant, mais qui avait une certaine noblesse d'intelligence, quand il a vu la terrasse, bien, c'est merveilleux, parce que tous les matins, on peut adorer le soleil. Alors vous allez avoir des petits moines qui tous les matins viendront là assister au lever de soleil et adorer. S'il existe, hein, ces adorateurs du soleil, c'est parce que le soleil, symboliquement, exprime le Christ, exprime Dieu, la lumière. La source de la lumière. Le seul inconvénient, c'est qu'il identifie la réalité et le symbole. Le soleil est très beau, merveilleux. On est obligé, en face du soleil, de fermer les yeux. On est obligé, en face du soleil, on ne peut pas le regarder en face. On est obligé incline la tête, tellement il est Seigneur. Alors, il symbolise Dieu. En Dieu, il n'y a pas la nuit, il n'y a pas le soleil, la lumière. Comment Dieu gouverne-t-il notre monde ? Fait pour l'homme. Dieu a créé ce monde uniquement pour l'homme. Pour nous. Pour que nous puissions vivre. Il ne l'a pas créé pour lui. Il l'a créé pour l'homme. Et c'est l'homme qui doit glorifier Dieu d'avoir créé le soleil. C'est l'homme qui doit glorifier Dieu d'avoir créé la lune. C'est l'homme qui doit glorifier Dieu d'avoir créé les étoiles, la mer et l'océan. Tout passe par l'homme. L'homme est médiateur. Il est prêtre de la nature. Médiateur. C'est par lui que tout retourne vers Dieu. Parce que rien de ce monde, par lui-même, ne peut retourner vers Dieu. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Hein ? C'est ça. Le monde physique a été créé pour l'homme. Ça fait partie de la paternité de Dieu. Un père, il donne des jouets à ses enfants. Hein. Et les jouets que Dieu nous donne sont des jouets très sérieux. Le soleil, c'est un jouet. C'est un peu dangereux de temps en temps. Le feu est dangereux. Il est attirant, mais il est dangereux. Et le soleil est attirant, il est dangereux. Il faut tenir un peu à distance, pas trop près. Dieu le sait. Il a mis le soleil pour qu'on ait le sens d'un respect, d'un feu prodigieux. C'est fou, la puissance du soleil. Et ce qu'on a, nous, comme capacité de puissance par l'électricité, c'est rien. À côté des décharges qui se font quand il y a des orages, à côté du soleil, ce monde que Dieu a créé pour l'homme, comment Dieu le gouverne-t-il ? Il le gouverne toujours pour l'homme. Mais Dieu gouverne ce monde par des causes. Il y a des liens qui organisent ce monde. Ce monde est très organisé. Il est merveilleusement organisé. J'en connais quelques petits points, mais pas grand-chose. Les savants qui étudient les profondeurs des océans voient très bien qu'on ne connaît pas grand-chose des forces naturelles. Les savants qui étudient les tremblements de terre et ce que la terre peut avoir comme secousse savent très bien qu'il y a des puissances de décharge terribles. On ne connaît pas grand-chose, très peu de choses. On marche sur des volcans. C'est vrai. On marche sur des volcans. Ils sont éteints. Gagnez pas. De temps en temps, ils s'allument. Mais c'est pas commode de voir un volcan qui s'allume. Hein. Et même quand il est éteint, c'est très impressionnant de voir un volcan qui a été en activité, qui ne l'est plus. On a l'impression qu'on est devant quelque chose qui dépasse tout fort. Le monde est créé par Dieu. Pour Dieu, il est rien. Pour Dieu, il est rien. Toutes les capacités de force du monde, c'est rien à côté de Dieu. C'est pour nous. C'est pour nous. Un petit jouet. Attention. Ne jouez pas trop avec le soleil. On a voulu jouer beaucoup avec le monde. La science, elle pousse très loin. Et alors, elle fait des expériences dangereuses. Alors, avant, on fait des expériences uniquement dans des lieux particuliers, fermés. Les dernières expériences qu'on a faites, à ciel ouvert. Et on ne sait pas le résultat de ces expériences. Ça a peut-être détraqué quelque chose dans l'atmosphère, peut-être. Et ça continue de détraquer, peut-être. Dieu a laissé à l'homme ce pouvoir de dominer l'univers. Allez, dominez l'univers par votre intelligence, par votre art, par votre technique. Et l'homme, quelquefois, est pris par l'orgueil, le désir de dominer, et il oublie que la recherche scientifique est pour l'homme et pour permettre de se servir de l'univers, mais pas de faire sauter l'équilibre de cet univers. L'équilibre de cet univers a été créé par Dieu. Dieu l'a créé pour l'homme. Et Dieu a voulu qu'il y ait des causes et des liens intérieurs, un ordre. Et il y a des causalités mutuelles, et on connaît très peu de choses. On ne peut pas dire que Dieu gouverne le monde physique, notre monde physique, comme un père. Non. Il le gouverne comme créateur. Il garde et qui veut garder l'équilibre, l'harmonie dans cet univers pour l'homme. Et il le confie à l'homme. Habitez, ce monde est pour vous. Vous pouvez en prendre des fruits. Faites attention de ne pas le détraquer. Parce que quand il sera détraqué, vous ne pourrez plus le remettre en mesure. Un moteur d'auto, on sait comment il est bâti, alors on peut très bien le remettre quand ça ne marche plus. Mais l'univers, on ne sait pas comment c'était fait. C'est vrai, hein, cet équilibre merveilleux de l'atmosphère, ce fait que le soleil est tamisé, quelquefois quand même très chaud, mais on touche à des tas de choses qu'on connaît mal, qu'on ne connaît pas. Et alors, à cause de l'orgueil, on n'hésite pas d'avancer. Et peut-être en détraquant tout. Dieu n'a pas envie de détraquer l'univers. Il est pour l'homme. Il est pour le bien de l'homme. Dieu veut ce bien de l'homme. Et Dieu a mis dans cet univers des lois. C'est-à-dire des liens entre les différentes choses entre elles, des liens entre des réalités qui sont cause d'autres réalités. Et ceci pour le tout. Notre univers n'a pas de fin pour lui-même. Il est ordonné à l'homme. Même le soleil, même la lune, ils sont ordonnés à l'homme. Il n'y a que l'homme que Dieu a créé pour lui, pour l'homme et pour Dieu. Et c'est pour ça que cet univers, si parfait qu'il soit, si merveilleux qu'il soit, n'a pas de finalité en lui-même. La seule finalité qu'il aurait en lui-même, ce serait de rester en harmonie, de rester ordonné. Mais tout ça, c'est pour l'homme. Et c'est pour que l'homme puisse vraiment grandir, se fortifier, contempler, trouver sa finalité en Dieu. Vous voyez, le problème de la liberté de l'homme, comme il est grand. L'homme est capable d'accepter Dieu comme père, père de sa vie, père de son intelligence, père de sa volonté. L'homme est capable de comprendre que l'univers est pour lui comme un jouet merveilleux, étonnant, qui lui permet de vivre. L'homme est capable d'accepter Dieu ou de le refuser. Il est capable de coopérer avec Dieu ou de refuser cette coopération et de coopérer avec celui qui est contre Dieu. Alors là, je passe au domaine théologique. Le philosophe peut seulement constater qu'il y a des forces négatives. Il ne peut pas découvrir le démon. Il ne peut pas le découvrir. Parce qu'il ne sait pas ce que sont les anges. Il n'a pas d'expérience philosophique. Mais il peut constater qu'il y a une lutte qui est incompréhensible, humainement incompréhensible, qui est plus forte que l'intelligence humaine, qui est plus universelle. Il peut constater qu'il y a une lutte, une façon différente d'user les choses et d'ordonner sa vie. Alors, on est là en présence du problème du mal. Et c'est important de regarder ce problème du mal. On le regardera ce soir. Pourquoi Dieu, qui est si bon, permet-il à une pauvre petite créature que nous sommes de lutter toute sa vie? C'est inhumain. Dieu aurait dû nous réserver un lieu paisible, comme l'Éden. On en a la nostalgie. Comment Dieu infiniment bon permet-il cette lutte incessante?